Alors voilà, j'arrive à. Donc au deuxième point, c'est que bien sûr qu'on peut dégager des traits généraux de la nature humaine et dire ce qu'est la nature humaine. Mais la question du bien ne s'arrête pas à ce qui est le plus général, parce que vous voyez bien, nous n'allons pas avoir tous exactement les mêmes vocations, nous n'allons pas choisir les mêmes emplois, les mêmes métiers. Et déjà, il y a un grand partage entre l'homme et la femme, donc il faudra penser aussi la nature en tant qu'elle est genrée. Donc déjà, vous voyez, on va aller beaucoup plus vers du particulier. Et une fois qu'elle est genrée, il va falloir aussi distinguer entre les dispositions de certains et les dispositions d'autres. Donc, la morale ne doit pas s'arrêter seulement à la nature humaine en général, mais aussi à la manière dont elle est, on va dire quoi, subjectée ou exercée personnellement. Il faut passer de la nature à la personne, si vous voulez. Il faut remarquer que la nature humaine, elle existe toujours dans une personne, dans un sujet singulier. Et donc, elle va se déployer selon une histoire, selon des dispositions qui ne sont pas les mêmes de l'un à l'autre. Je vous le précise parce que ça, c'est un point décisif de la morale qui a été vu par les Grecs, bien sûr, mais qui a été spécialement déployé par les Latins. Je pense à Cicéron, qui est une des influences majeures de la philosophie, enfin de la théologie morale de Thomas d'Aquin. Souvent, on voudrait que Thomas ne soit qu'un disciple d'Aristote, et on court-circuite, comme je vous l'avais dit souvent, le moment latin. Alors que Cicéron est un auteur incontournable pour Thomas d'Aquin, à tel point qu'il met en évidence, par exemple, dans sa manière de penser les vertus, il y a toujours des références, des définitions qui renvoient à Cicéron. Et pas seulement à Aristote. C'est pourquoi je vous ai mis ce passage de Cicéron. Donc, vous voyez, ici, on a la nature humaine en général. Mais la philosophie morale va devoir aussi s'interroger donc sur la nature personnel. Et là, on n'est plus simplement dans une spéculation pure parce qu'il va falloir considérer la personnalité de chacun. Voilà ce qu'écrit Cicéron. Chacun doit garder ni plus ni moins que ce qui est à lui. Non pas les vices, mais les traits de caractère qui lui sont propres. Oui, refus d'une aliénation totale. Vous avez des traits de caractère, on a chacun des traits de caractère. Le bien qu'on doit chercher, c'est le bien aussi qui correspond à nos traits de caractère. À partir du moment où ce ne sont pas des vices, vous avez vu, c'est des traits de caractère. Pas les vices, il dit, les traits de caractère. En dehors de ce qui serait des faux vicieux. Afin de conserver d'autant plus aisément, j'aime bien ce mot, la liaison ici, afin de conserver d'autant plus aisément le convenable que nous cherchons. Remarquez la chose suivante. Je dois chercher le convenable. Mais le convenable, pour qu'il tienne en nous, vous voyez, pour le conserver, il faut forcément qu'il nous corresponde. Parce que si vous plaquez, vous voyez, des biens qui ne sont pas les vôtres, qui sont ceux de votre voisin sur vous, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas le conserver. Vous allez peut-être y arriver parfois, vous voyez, mais après, ça va partir. Mais c'est très fort, ce passage. On doit chercher le convenable à la nature humaine, mais aussi ce qui me convient le mieux selon mes traits de caractère, d'où la diversité aussi des vocations. Je ne parle pas des vocations au sens du partage ministériel, laïque, clair, religieux, etc. Je parle vraiment d'un aspect plus personnel, ici. Nous devons en effet agir de manière à ne rien entreprendre contre la nature universelle. Donc, vous voyez, première remarque, c'est vrai, il faut agir de manière à ce qu'on n'aille pas contre la nature humaine en général. C'est ça ce qu'il appelle la nature universelle. Mais celle-ci préservée, à suivre la nôtre propre. Donc, vous voyez, nous devons agir de manière à ne rien entreprendre contre la nature humaine, mais aussi, une fois qu'on a conservé en nous la nature humaine, qu'on agit en fonction... on doit aussi suivre notre propre nature, c'est-à-dire la nature en tant qu'elle est personnelle.
Oui.
Exactement, exactement. Il faut, il y a quelque chose, on ne peut pas aller contre des choses qui sont objectivement une destruction de la nature humaine. Il y a des mots qui sont en soi objectifs, quel que soit votre particularisme, vous voyez, ça ne pourra jamais être bon. Ça, c'est la question qui a une objectivité du bien qui vaut pour tous parce que c'est général. Alors, c'est quoi, par exemple? Vous savez, Aristote ne retient que trois mots absolument objectifs. Le vol, l'adultère et l'homicide. L'homicide au sens du, pas de la légitime défense, mais du meurtre. Et c'est très intéressant, il a un passage très bon, il dit, on peut dire que le bien doit s'adapter aux circonstances. Et il dit, mais si quelqu'un vous dit qu'il a par exemple couché avec une autre femme, qu'il a commis l'adultère, mais avec la femme qu'il faut, dans les bonnes circonstances, au bon moment, et que c'était absolument conforme à ce qu'il éprouvait, à ses dispositions ou à ses traits de caractère, vous dites que c'est pure fausseté, mais c'est pas possible. Il y a quand même une objectivité, donc c'est pour ça qu'il y a... Mais à l'intérieur de cela, effectivement, il y a une réflexion à avoir sur ce qui m'est propre aussi. Tout à fait, vous avez raison. Alors, en tout cas, si l'on regarde ce qui est la moralité comme telle chez Kant, effectivement, elle se refuse à penser cette dimension-là. Mais est-ce que Kant l'exclut, ou est-ce que ça veut dire que la moralité doit s'ajuster à un domaine qu'il appelle la prudence, voire à un autre domaine qu'il appelle aussi l'habileté, vous voyez, bon. C'est pas facile, mais on en parlera parce qu'on va aborder la pensée de Kant, hein, et on va justement la critiquer aussi sous ce rapport-là. Voilà, alors, je reprends cette phrase parce que ça c'est décisif. Hein. Nous devons en effet agir de manière à ne rien entreprendre contre la nature universelle, mais celle-ci préservée à suivre la nôtre propre pour que, même s'il y en avait de plus relevés et de meilleurs, nous réglions pourtant nos goûts d'après l'étalon de notre nature, car il est vain de s'opposer à la nature et de poursuivre un objectif que l'on ne peut atteindre. Il peut y avoir des choses qui sont meilleures que le bien qui nous convient à nous. Mais il faut d'abord viser le bien qui nous convient. Vous comprenez? Ça, c'est très fort, hein. Sinon, vous tombez dans un absolutisme, mais un absolutisme où vous ne cessez de vous exalter, voyez, à un moment, et puis de vous effondrer. Oubliez, hein, n'oubliez pas que ça rejoint cette affirmation de Cicéron, la remarque que posait Aristote du bien qui est à notre portée. Mais Aristote s'intéressait à ce qui est à la portée de l'homme. Là, on va un peu plus loin, on se dit, ben voilà, chaque homme aussi a sa manière d'être un sujet humain, à partir de son histoire, à partir de ses capacités propres. Et donc, il faut aussi penser cela. Ne mettons pas dans notre conduite, écoutez maintenant la comparaison avec le théâtre, grande comparaison cicéronienne, ne mettons pas dans notre conduite moins de bon sens que les comédiens n'en portent sur la scène. Ce n'est pas le plus beau rôle qu'ils choisissent, mais celui qui est le mieux assorti à leur talent. Là, c'est une question de casting. Ceux qui ont beaucoup de voix aiment à jouer les épigones ou méduses. Alors ça, c'est les personnages du théâtre latin. Hein. Ceux qui brillent par le geste préfèrent Mélanippe ou Clytemnestre. Rupilius, dont je me souviens, avait Antiope pour pièce favorite. Ésopus ne jouait pas souvent Ajax. Un histrion aura donc au théâtre le tact qui manquera aux sages dans la vie. Ne le souffrons pas. Consultons notre aptitude et demeurons-y fidèles. Si quelquefois la nécessité nous force à remplir un rôle qui ne soit pas le nôtre, Employons alors tous nos soins, tous nos efforts, tout notre esprit à nous en acquitter. Je ne dis pas avec un grand succès, mais le moins mal possible. Mais il peut arriver, ajoute Cicéron, que les circonstances nous poussent à endosser un rôle qui n'est pas tout à fait le nôtre. Eh bien là, on essaye malgré tout de se débrouiller. Il reconnaît une place aussi à la nécessité du contexte. Il ne faut pas tout de suite dire « Ah, mais c'est ma nature ». Non, voilà, si ça nous échoue, il faut essayer de le faire. Mais dans ce qui est de la recherche, quand on a la recherche, la possibilité de chercher, il faut chercher ce qui nous est le plus propre. Nous devons alors bien moins songer à faire montre des qualités que ne nous a pas donné la nature qu'à nous garder de tout défaut. C'est un passage vraiment admirable. Je vous rappelle ici que le mot « rôle », comment est-ce qu'on dit « rôle » en latin ? Un rôle de théâtre, comment est-ce qu'on dit « rôle » ? On dit « persona ». Voilà. La personne, c'est le rôle. Enfin, c'est le personnage, en fait, vous voyez, ce qui a donné le mot « personnage ». Et n'oubliez pas que ici, il renvoie au théâtre, mais en fait, c'est aussi l'expérience théâtrale qui nous a fait travailler la catégorie de personne dans la théologie latine. Qui a été bien tard celui qui a pensé cela le plus profondément, c'est Oui, c'est pas faux, parce que chez Jean-Paul II, il y a ça, mais parce qu'il a eu une pratique du théâtre. Non, mais celui qui l'a pensé au point d'en faire une grande œuvre. Pardon ? Bah oui, Balthazar. Ouais, je juste que vous avez bien suivi le cours sur Balthazar, quand même. Hans Urs von Balthasar, le grand théologien suisse, dont Benoît XVI, dans son dernier entretien, là, a dit que c'était l'esprit le plus vaste qu'il avait rencontré, et pour qui il avait toujours une admiration sans borne. Mais je pense que vous l'avez compris quand vous avez eu le cours de Pascalide sur Balthazar. Bon. Écrit une dramatique divine, et il essaye de ressaisir les catégories théâtrales pour essayer de penser le mystère de la rédemption. Mais il ne le fait pas à partir d'une sorte d'intuition géniale qu'il aurait eu en propre, mais simplement à partir du constat que la notion de personne, vous voyez, pensée comme nature qui est individualisée, vient du théâtre. Voilà. Alors, il faut aller même plus loin que ça, parce qu'il faut aller jusqu'aux circonstances. Ça, c'est un point fondamental. Le moi est toujours situé. C'est une remarque d'ailleurs que Jean-Paul Sartre avait bien vue quand il insiste sur la question de la situation, vous savez, en morale. Il redécouvre quelque chose qui est fortement affirmé par les grands penseurs de l'éthique, à savoir qu'on agit aussi dans la connaissance des circonstances. Et que selon les circonstances, une fois ce qui est conforme à la nature humaine, une fois que c'est sauf, une fois que ce qui est conforme à la nature personnelle est au moins en partie préservé, parce que vous avez remarqué que dans le texte de Cicéron, les circonstances peuvent faire qu'occasionnellement, je m'efforce de réaliser le bien qui n'est pas dans ma nature personnelle, voyez, mais j'essaye de le faire au mieux, voyez, sans... D'accord ? C'est dit, Mais vous savez, c'est déjà, cette phrase nous dit le poids des circonstances. Et c'est pour cela que la question de la bonne action, c'est pas simplement la question du précepte général conforme à la nature, conforme au bien humain, ça n'est même pas seulement la question de ce qui est en plus individualisé par rapport à moi-même, c'est aussi par rapport à la situation particulière dans laquelle je me trouve. Parce que l'action concrète, elle n'est pas générale. Elle se joue, vous voyez, dans une situation donnée, unique. D'où tout ce domaine qu'on appelle le domaine de la prudence. Et la vertu de prudence, c'est celle qui cherche à appliquer les préceptes généraux à la situation particulière. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Hein, mais... C'est pour cela que la vérité en morale se distingue de la vérité spéculative. Dans la vérité des sciences, dans la vérité spéculative, vous pouvez aboutir à quelque chose qui est une sorte de loi générale qui s'applique à tous les cas. Mais est-ce qu'en morale, la question de l'adaptation à la situation particulière n'est pas si fondamentale que la vérité ne peut être qu'une vérité approchée, approximée? Écoutez ce que dit Aristote, hein, qui sera repris bien sûr par Thomas d'Aquin, mais qui est souvent mal repris par les cathos puritains, vous voyez, qui vont dire, ah ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est comme ça, et ils croient, voyez, ils ont une conception bureaucratique de la morale, voyez, vous avez une sorte de précepte absolu, et puis on l'applique au moule à gaufres, quoi, devant une réalité qui ne serait qu'une réalité liquide, et liquide, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez, vous lui donnez la forme que vous voulez. Mais non, elle a une concrétude, la réalité. Il faut épouser les choses, de telle sorte que votre action ne détruise pas en essayant de faire le bien. Ne fasse pas plus de mal que de bien, simplement parce que vous avez des bonnes intentions. Mais c'est de considérer les circonstances. Voilà ce qu'il dit, on ne doit pas chercher... Ça, vous savez, c'est un des passages les plus célèbres d'Aristote, des plus importants, qui montre qu'il ne peut pas y avoir une seule méthode pour tous les domaines de la connaissance. On a dit que Descartes prétendait qu'il n'y avait qu'une seule méthode ou que les mathématiques devenaient la méthode de toutes les sciences jusqu'à la philosophie, etc. C'est vrai que ça a été une tentation moderne. Chez Descartes, remarquez que le domaine moral est préservé du doute hyperbolique. Si vous regardez bien, hein, il appelle ce qu'on appelle la morale par provision chez Descartes. Il dit, voilà, je vais poser la question de quel est le... la vérité indubitable, ce qui va servir, voilà, il va remonter, vous savez, il va douter de tout, jusqu'à ne pas pouvoir douter de qu'il doute, donc qu'il pense, et donc qu'il est, etc. Enfin, sachant que les donc ici ne sont pas des déductions, mais des choses qui sont des explicitations. Et en même temps, il dit, mais en même temps, je vis dans une société, je dois bien vivre avec les gens, cette expérience que je vais faire connaît cette limite que je dois continuer à vivre avec les autres qui sont autour de moi. Et en même temps donc qu'il va pratiquer le doute hyperbolique dans le domaine spéculatif, il va dire, pour ce qui est de la morale, donc dans le domaine pratique, c'est le statu quo. Je dois tout conserver, je dois respecter la coutume, je ne dois rien mettre en doute. C'est très intéressant, hein. Vous avez ce point de départ chez Descartes qui est un point de départ double. Ne absolument pas mettre en doute la morale de mon pays, de mon époque, vous voyez. Celle que j'ai reçue en fait de mes parents, donc le catholicisme, hein, première chose. Mais de l'autre côté, dans le domaine spéculatif, pratiquer un doute radical. La morale par provision, bah, vous trouvez ça aussi bien dans les méditations métaphysiques que dans le discours de la méthode, au début de les discours de la méthode. Et c'est intéressant hein, de voir que justement le domaine pratique connaît un sort complètement distinct. Et donc déjà Descartes reconnaît qu'il y a deux méthodes différentes. Donc la méthode ne s'applique pas au domaine moral, ça c'est intéressant. Donc, ce n'est pas vrai de penser que pour Descartes, il n'y a qu'une méthode et que tout doit se ramener aux mathématiques. Descartes n'a jamais cru en des mathématiques morales. Hein. Ça, c'est complètement faux. Là encore, c'est faire un faux procès encore en sorcellerie, comme font beaucoup de... Parce que Descartes, c'est toujours le méchant aussi, sert de repoussoir beaucoup. Faites attention à ça. Hein, parce que... Oui ?
Vous parlez de vérité en morale, qui se distingue de la vérité spéculative, mais comme c'est dans le domaine de l'action, c'est quoi la vérité? Enfin, qu'est-ce qu'on entend par vérité?
Bah, c'est quoi la vérité? C'est ce qui est bien.
D'accord.
Voilà, je suis dans une situation où les nazis déportent les juifs. Et je veux sauver des enfants juifs, et en même temps, je sais que je ne dois pas mentir. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? J'ai le devoir de sauver ces personnes, mais en même temps, je ne dois pas mentir. Donc, soit je les sauve, vous voyez, et en même temps, quand l'officier nazi arrive chez moi, il me dit « Vous avez des enfants juifs ?» Il dit « Oui, oui, je vous les ai gardés au chaud. C'était pour les sauver, mais puisque vous demandez, c'est pour emporter. Hein. C'est pour tuer tout de suite ou c'est pour déporter ?» Voilà, comme si c'est... Bon, alors, vous allez dire, oui, mais si je dois cacher ces enfants, il faut bien que je les cache, donc il faut que je les cache. Mais en même temps, si je les cache, quelle est la meilleure manière de cacher des enfants juifs sans attirer sur moi le soupçon? Alors, faire comme si eux étaient des Allemands, mais surtout comme si moi, j'étais un sympathisant du Troisième Reich. C'est ça qui est super, vous savez, je dis, j'arrive, je dialogue avec eux, je dis, ouais, vous êtes super sympas les mecs, j'adore le pas de loi, des trucs comme ça. Alors là, forcément, vous êtes obligé de pratiquer la duplicité pour pouvoir bien dissimuler, la dissimulation, si vous voulez, donc de simuler. Mais si vous faites ça, vous voyez, donc je suis pris, là, je suis pris dans une situation concrète. Et c'est là, vous voyez, cette situation va impliquer une manière de vivre la vérité, je veux dire la véracité, de ne pas mentir, qui va être assez étonnante. Vous comprenez, c'est ça la situation unique dans laquelle je suis. Thomas d'Aquin prend d'autres exemples. Il dit, voilà, il est normal en morale de rendre les dépôts qui nous ont été confiés. Je pars, je vous laisse quelque chose, je dis, tu pourras me le rendre quand je reviens, là, je vais faire des courses. Ouais. Et puis quand je reviens, vous me dites, oh ben non, maintenant c'est à moi. Non, je dois rendre. Je dois restituer les dépôts. Voilà. Et il prend le cas de quelqu'un qui a laissé en dépôt chez moi son épée. Il faut voir comment c'est. Dites-vous bien que l'époque de Thomas d'Aquin, c'était comme ça, quoi. Hein. C'était l'exemple qu'il prend. Imaginez, hein, si on devait le rendre contemporain, c'est voilà, il y a quelqu'un qui a laissé chez moi son flingue. Donc, c'était le Far West, hein. Mais quand il revient pour le reprendre, il est hors de lui. Il a pété les plombs, il est fou. Ah, alors ouais, là, je suis dans une situation particulière où je ne vais pas lui rendre. Pourtant, la règle, c'est de restituer les dépôts. Vous comprenez comment les circonstances exigent que, vous voyez, dans le domaine de la loi, par exemple, on peut ne pas respecter la lettre de la loi parce qu'on cherche à respecter l'esprit de la loi. Et donc, il y a toujours un esprit du bien qui peut dépasser une conception étroite de tel ou tel précepte. D'accord? Vous pourriez dire, Robin des Bois est un voleur, le prince des voleurs, et en même temps, est-ce que Robin des Bois est un voleur ou quelqu'un qui essaye de restituer aux personnes ce qu'on leur a volé? Et dans la circonstance qui était... vous voyez, Nottingham à l'époque, etc., eh bien, il n'était pas voleur. D'accord? Donc, on doit toujours peser ces circonstances. Mais à cause de ça, vous voyez, il n'y a pas de vérité générale qui marche dans tous les cas, ou qui marche même absolument ut in pluribus, c'est-à-dire dans la plupart des cas... Parce que fréquemment, les choses, les circonstances font qu'on doit... D'ailleurs, on ne peut pas dire... C'est même pas dans la plupart des cas, c'est que même la règle générale, à la limite, tient toujours, mais qu'il faut toujours aussi l'adapter aux circonstances particulières. Vous voyez, ne pas mentir, bien sûr que je ne dois pas mentir. Ça ne veut pas dire que je dois dire n'importe quelle vérité à n'importe qui. Vous êtes d'accord? Ne pas mentir, c'est quelque chose de précis. Mais... Ne pas mentir, c'est pas simplement dire la vérité de telle sorte que ça y est, je suis quitte, ça y est, je l'ai dit. Et puis... Il faut la dire de telle sorte qu'elle soit reçue. Vous voyez? Et donc là, il faut la dire de la bonne manière, au bon moment. Oui?
Je bouillonne depuis un petit moment.
Oui?
De citer saint Thomas cité par le pape François dans sa dernière exhortation admirable.
Oui, bien sûr, forcément.
Dans des situations particulières, il y a les générateurs, la règle générale, mais plus la règle générale se rapproche de la personne, plus il y a des exceptions, et à un moment donné, c'est la personne qui est devant et la règle est en arrière-fond. Donc à un moment donné, éclairer, c'est la conscience individuelle qui doit choisir ce qui est bien pour elle.
Alors, oui, je suis d'accord. Vous avez raison de dire, à Maurice Laetitia, les grands débats, notamment autour du chapitre 8, sont entre ceux qui disent « Attention, il y a la nature humaine, il y a l'objectivité qui prime, et donc la règle générale », et ceux qui disent « Attention, non, il y a les circonstances de vie particulières qui peuvent aller, même éventuellement, jusqu'à suspendre la règle générale ». Et donc là, vous voyez, on peut être dans un combat qui tourne à vide, parce que et si ceux qui disent « Il y a que, on est dans un pur circonstancialisme », et ceux qui sont dans un pur dogmatisme moral, ben forcément, ça ne marche pas. Les deux ne marchent pas. C'est deux erreurs opposées, vous voyez ? L'idée qu'on est dans l'objectivisme pur et qu'il s'agit d'appliquer la règle sans considérer la situation particulière. Et ceux qui disent « il n'y a que des situations particulières », alors mettre la règle à l'arrière-plan, ça n'est pas la faire disparaître. Voilà, c'est ça. Et quant à la question de la conscience individuelle, il faut faire… Là je dirais… Peut-être, mais ça, alors à ce moment-là, on n'est plus chez Thomas. La question de la conscience n'est pas une question thomasienne, parce que la notion de conscience, vous voyez l'idée de l'individu libre face à une loi et sa conscience qui cherche à ajuster la loi extérieure, conçue comme extérieure, et sa liberté intérieure, individuelle, et donc la conscience qui sert, vous savez, de modérateur entre les deux, c'est une conception moderne qui vient plutôt d'Occam, qui vient plutôt du nominalisme, en fait. Et chez Thomas d'Aquin, il n'y a pas... Alors, ce qui est curieux, c'est que dans beaucoup de manuels de morale tels qu'ils se sont déployés, parfois au nom de saint Thomas, on a relu saint Thomas à partir de ça. Alors que chez Thomas, ce n'est pas ça, on le verra. Hein. Chez Thomas, c'est l'idée d'une nature que je dois... comprendre, accueillir, sinon je me plante, je deviens schizophrène, la fructification de cette nature. Et donc la vraie question chez Thomas, c'est d'abord la question du déploiement de ma nature jusqu'à la béatitude divine, jusqu'au bien surnaturel à laquelle elle a été appelée. Donc c'est une morale qui est éminemment positive et qui n'est pas en train de penser la loi comme ce qui vient me contraindre et avec laquelle je dois faire parce que je vis en société, parce qu'il y a un Dieu, parce qu'il y a... La loi n'est pas ça chez moi. La loi est... En fait, chez Thomas d'Aquin, tous les ordres sont des désirs. C'est-à-dire que la loi vient simplement révéler ce qui est le désir le plus profond de mon cœur et ce qui est vraiment la tendance la plus profonde pour le déploiement de ma nature. Vous voyez, c'est ça qui est... Donc, on n'est pas dans cette question de conscience qui doit ajuster entre... Et c'est une autre manière de voir. C'est pour ça que je suis complètement ignare des philosophies de la conscience morale. Je suis désolé, hein, mais ce n'est pas ma tasse de thé, je suis trop thomiste ou trop grec ou trop latin pour ça. Oui. Mais c'est vrai que ça a eu un rôle prépondérant après dans une certaine morale. Et il faut savoir que le père Pinkars, le grand dominicain qui a enseigné ici la théologie morale, s'est battu en fait hein, pour restaurer une théologie morale qui se veut dynamique à partir de la notion de la nature appelée à un bien surnaturel, et donc vous voyez, une sorte de pure positivité, de fructification, contre toute une morale, vous savez, qui se voulait la loi, c'est la contrainte, mais il faut faire avec, et si tu souffres sous cette loi, c'est bien parce que tu iras au paradis après, donc que ta conscience essaye de jouer avec ces deux trucs. Vous voyez, bon, l'ajustement entre ma liberté et la liberté de Dieu, ou ma liberté et la liberté d'autrui. C'est comme ça souvent que c'est pensé la conscience. Mais est-ce que c'est ça qui est vrai ? Est-ce que déjà je dois penser ma liberté comme l'adverse de la liberté d'autrui ? Est-ce que je dois dire ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui ? Ou est-ce que je dois dire ma liberté commence là où commence celle d'autrui ? Vous voyez, c'est plus du tout la même chose. Par exemple, c'est très simple, hein, si vous voulez monter une pièce de théâtre, hein, votre liberté commence où commence celle d'autrui, hein, c'est pas qu'elle s'arrête, parce que vous ne pouvez pas faire tout seul.
Je suis un peu pratique, mais chez les personnes, dont la plupart n'ont pas réalisé cette réflexion thomiste, l'approche est souvent difficile.
Non, bien sûr.
On ne peut pas arriver avec une telle réflexion dans le corps.
Bien sûr.
Face à des situations particulières.
Oui, mais le problème, c'est que le catéchisme, bien sûr, parle de la conscience morale. Hein, et même Jean-Paul II, qui est très lié au personnalisme, où la notion de conscience morale est forte, insiste aussi là-dessus. Mais introduire la thématique de la conscience morale du point de vue pastoral, surtout dans le contexte actuel, revient souvent à dire « c'est complètement subjectif ». Alors que le thème de la conscience, attention, la conscience, c'est le lieu où Dieu parle en nous. Ce n'est pas simplement ce dont j'ai envie, ou ce qui me passe par la tête. Et c'est là où il y a une difficulté. Donc, je dirais, invoquer la conscience du point de vue pastoral, ça peut être une bonne chose, mais il faut que cette conscience soit éclairée. Voilà. Mais de l'autre côté, je pense aussi qu'on peut partir aussi de la simple réalité humaine, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es? Tu es un être humain, qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine, etc. Et alors là, on aurait une démarche qui n'est pas moins efficace, à mon avis, pastoralement. Voilà, exactement. Et est-ce que c'est conforme à ce que tu es finalement, ou est-ce que tu es en train d'essayer de passer du blanco sur ta vie? Ça ne t'arrive pas à effacer.
C'est une morale de l'amitié.
Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas sortir de cette dimension-là. Alors, vous voyez, l'enjeu ici, c'est de ne jamais nier qu'il y a une objectivité. Il y a des choses, une matière, parfois dans le péché, où c'est toujours mauvais, quoi. Bon. Mais il y a aussi la question des circonstances qu'on est obligé de penser. Et c'est pour ça qu'ici, la vérité ne peut être qu'approchée. Qu'on ne peut pas exiger en morale la rigueur qu'il y a dans les mathématiques. Du reste, Aristote dira la même chose, il dirait on ne peut pas attendre d'un rhéteur des démonstrations aussi rigoureuses que celles d'un mathématicien. Et même, il y a une différence entre, il parlera dans d'autres textes, d'un astronome et d'un médecin. Si un astronome vous dit « l'éclipse aura lieu à peu près, disons, dans 2 semaines », enfin, on verra bien, hein, je vous dis ça, c'est un peu... Si vous dites ça, c'est un mauvais astronome. Parce que l'astronome, il est capable de donner l'heure de l'éclipse à la minute près, voyez. Mais si un médecin vous dit, vous guérirez jeudi prochain à 13h38, là aussi, vous pouvez vous inquiéter. Vous voyez, donc, selon l'objet qui est étudié, selon la chose que notre connaissance concerne, on ne doit pas attendre la même rigueur. Selon, en fait, l'objet formel, c'est ça ce qu'on doit dire, hein, on n'a pas la même méthode. Et ça, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule rigueur, mais des rigueurs. Vous voyez, vous devez avoir assez de rigueur méthodologique pour comprendre que c'est chaque type d'objet qui va exiger un certain mode de procédé, une certaine rigueur. Si vous appliquez à tous les objets, vous voyez, à la poésie, par exemple, certains ont cherché à trouver la méthode de la production poétique comme on ferait une production, mathématique. Vous voyez, bon, mais ce n'est pas possible. Il y a une absurdité à aller de ce côté-là. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rigueur dans la poésie et que c'est le règne de l'anarchie totale et que chacun écrit n'importe quoi, que c'est que l'écriture automatique. Ce n'est pas vrai non plus. D'accord ? Alors, il nous reste 5 minutes. Il y a encore autre chose que je n'ai pas mentionné. Et hélas, je n'ai pas pu mettre de texte là-dessus, j'y ai pensé qu'après. Ça m'est venu, ça, j'améliore le cours. C'est la question de la fortune, de la chance. Ouais, faut aussi avoir un peu de bol. Et ça c'est génial, parce que là, c'est là qu'Aristote est beaucoup plus fort que les stoïciens. Parce que certains ont voulu penser qu'on atteignait le bien en dehors des circonstances matérielles. D'une certaine façon, même si vous arrivez les pires choses, vous pouvez toujours tenir grâce, voyez, à votre force intérieure, parce que vous êtes replié dans votre citadelle intérieure. Et Aristote dit la chose suivante, il dit « Attention, les biens matériels doivent être considérés aussi en morale. Et ces biens matériels, vous voyez, ils ne dépendent pas que de vous, dépendent en partie de vous, mais dépendent aussi de votre bonne fortune, de votre naissance, par exemple. Il faut reconnaître que certains, ben, ont été moins bien lotis que d'autres, et que dès lors, leur possibilité d'accéder à la plénitude de l'exigence morale est entravée. Oui ? Ça fait partie des circonstances, oui, mais je voulais juste, c'est pas simplement d'adapter, ça veut dire que même, il y a vous avez raison, hein, c'est une partie subordonnée, voilà, des circonstances. Mais par exemple, vous pourriez dire, la vertu peut se pratiquer quelles que soient les circonstances. Oui, ouais, c'est quelles que soient. C'est-à-dire, c'est pas simplement d'adapter aux circonstances, c'est de dire, non seulement on adapte aux circonstances, ça c'est normal, c'est le propre de la prudence, mais en même temps, vous pouvez toujours être vertueux quelles que soient les circonstances de la vie. C'est un peu un thème stoïcien, ça. De telle sorte qu'on va neutraliser complètement la contingence. On va dire, en gros, il n'y a pas d'événement qui fait qu'on arrive à faire le bien, etc., d'événements extérieurs. Ça ne dépend que de nous. Et Aristote a quand même ce sens, vous voyez, ça relève du sens commun. Il va dire, vous savez que c'est en plus la toute fin de l'éthique à Nicomaque. C'est fou qu'à la toute fin, quasiment, il retrouve une idée qui est une idée du sens commun il faut avoir de la chance aussi pour arriver au bien. Il dit la chose suivante, hein, « Le sage aura aussi besoin de la prospérité extérieure puisqu'il est un homme. » Car la nature... Ce n'est pas dans vos textes, hein, donc je suis désolé, je vous le donnerai ce texte. « Car la nature humaine ne se suffit pas pleinement à elle-même pour l'exercice de la contemplation. » Mais il faut aussi que le corps soit en bonne santé, qu'il reçoive de la nourriture et tous autres soins. Si vous privez de nourriture quelqu'un, il peut devenir fou. Et s'il tombe dans la criminalité, s'il sort de la vertu, est-ce que c'est sa faute ? Question, vous voyez ? Est-ce qu'on peut exercer sa vertu en toutes circonstances ou est-ce qu'il faut aussi certaines circonstances, vous voyez ? Et là, il insiste, il y a des biens matériels. Alors voilà, après il continue, il dit « Cependant, s'il n'est pas possible... sans l'aide des biens extérieurs d'être parfaitement heureux, on ne doit pas s'imaginer pour autant que l'homme aura besoin de choses nombreuses et importantes pour être heureux. Ce n'est pas en effet dans un excès d'abondance que réside la pleine suffisance et l'action. » Oui, donc, frugalité, voire pauvreté des biens, mais pas absence totale de biens matériels. Une morale qui se ferait dans une sorte de vertu qui s'exerce en dehors de toute condition matérielle, et qui oublierait qu'il y a des misérables, finalement, hein, et des misérables qui sont empêchés dans le déploiement de leur vertu, et ce n'est pas leur faute, bah, vous voyez, donc il y a forcément une dimension sociale. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'après ce chapitre-là, il parle de politique, après de l'éthique, vous voyez. Parce que, oui, il faut veiller aussi à donner les conditions pour que ça puisse se déployer. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a même pas dit l'essentiel. Parce qu'en fait, le plus essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne relève même pas de la connaissance. Parce que tout ça, vous voyez, ça relève de la connaissance. Mais la connaissance en morale ne suffit pas. Il faut aussi, pour aller vers l'action concrète, mais aussi bonne, il faut aussi... ce que l'on peut appeler des amours ordonnés. Ce que Kant appellera la bonne volonté. Il ne suffit pas de connaître, il faut aussi avoir, vous voyez, le mouvement intérieur qui nous pousse vers le bien. Vous pouvez très bien savoir ce qu'il faut faire au bon moment, avec toutes les circonstances, mais d'abord, qu'est-ce qui va vous motiver à le faire ? Qu'est-ce qui va même vous motiver à le chercher si vous n'avez pas d'abord un amour ordonné du bien ? Et donc, voyez, là encore, la philosophie morale est débordée, mais là, en dehors du champ de la connaissance, du côté du champ de l'amour. Voilà ce qu'écrit Thomas d'Aquin. La perfection et rectitude de la raison en matière spéculative dépend des principes à partir desquels elle fait ses déductions. Aussi, la science dépend-elle, avons-nous dit, de cette simple intelligence qu'est la connaissance habituelle des principes. Mais dans les actes humains, les fins ont le même rôle que les principes dans la spéculation, dit Aristote. Et c'est pourquoi la prudence, qui est la droite règle de l'action, exige qu'on soit bien disposé à l'égard des fins. Cela suppose un appétit réglé. Et c'est du côté du désir que les choses doivent être aussi réglées. Et voilà pourquoi la prudence exige la vertu morale, puisque c'est par la vertu morale que l'appétit est rectifié. Il y a aussi, pour accomplir le bien, une mise en ordre de l'appétit. Et ce n'est pas seulement une question de connaissance, c'est aussi une question d'amour. Et à la limite, celui qui a cet amour du bien va presque directement aller vers l'action concrète bonne, alors même qu'il n'aurait pas toutes ces connaissances-là. Vous voyez, comme quelqu'un qui agirait à partir d'une connaissance qui est une connaissance non pas réflexive, mais une connaissance par connaturalité. Comme il aime le bien, il est en résonance avec ce qui est bon, il a l'instinct quasiment de ce qu'il faut faire. Vous voyez ? Et le dernier point que je voulais mentionner, puis on va s'arrêter là, mais je voulais finir cette leçon quand même, c'est que c'est très difficile pour des jeunes gens. Parce que par définition, pour Aristote, les jeunes gens ont des passions effervescentes, difficiles à régler. La jeunesse est toujours un peu folle. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas longtemps encore, mais ça va sans doute encore vous arriver cette année. Vous voyez un jeune homme passer, vous l'avez rencontré un soir, mesdemoiselles, et tout d'un coup, c'est une obsession. Pendant des mois, vous êtes amoureuse, vous refusez de manger. Tout vous paraît fade qui ne vous parle pas de lui. Alors que peut-être c'était un ami de votre père qui était de jeune ami de votre père qui était de passage. Vous connaissez cette histoire, vous avez connu cette histoire. Voilà, ou quelqu'un que vous avez juste croisé une fois. Mais là, vous voyez, ça vous montre là, cette sorte d'hystérie des passions dans la jeunesse. Je vous rassure, hein, quand vous vieillissez, ça se tasse. Dieu merci. Il y a une force hein, de l'âge mûr hein, aussi, qui est que voilà, les passions ne sont pas aussi débridées. Aussi, et il faut beaucoup plus, vous voyez. C'est normal quand un petit enfant se met à hurler parce qu'il n'a pas un truc, il n'a pas son Playmobil, vous avez déjà, vous n'hurlez plus parce que vous n'avez plus votre Playmobil, vous voyez. Bon, vous avez déjà, mais il y a encore des choses qui sont à peine supérieures au Playmobil qui provoquent encore en vous des hurlements. Donc, voilà, ça c'est typique, et Aristote insiste là-dessus, il y a aussi un âge. Et même s'il s'agit d'avoir, et ça joue des deux côtés, l'âge qui fait que les passions sont moins effervescentes, et l'âge qui fait aussi que vous avez une certaine expérience des circonstances qui fait que vous avez une plus grande prudence. On ne peut pas, quand on est tout jeune, être un génie de la morale. Il faut l'expérience et il faut le fait que, vous voyez, votre sensibilité soit un peu racise, si j'ose dire. Et on ne peut pas. En mathématiques, vous pouvez être un génie très jeune, mais pas en éthique. Parce que vous n'avez pas le sens du particulier, vous n'avez pas le tact, vous n'avez pas assez connu de circonstances différentes pour savoir, voyez, cette qualité d'adaptation qu'il faut. En revanche, vous pouvez obtenir cela grâce à une vertu infuse, comme Thérèse de Lisieux. Mais là, vous voyez, on sort de l'ordre naturel, c'est par grâce. D'accord ? Où l'intensité de l'amour peut être tellement forte aussi que, d'une certaine façon, elle arrive à pallier le manque d'expérience.